Are you ready?
This song is your welcome to Mongolia, a land like no other. Our sky is pure, our steppe full of treasure.
La section du regard sur le cinéma de Mongolie, et ça s'appelle Passé Présent. On voit qu'il y a des films en noir et blanc, donc d'époque lointaine pour le cinéma, des années 30, des années 50, et puis on arrive sur d'autres propositions.
C'est ça. Passé Présent, parce que effectivement on montre une quinzaine de films, 16 au total, tournés entre 1935 et 2010.
D'accord.
Sachant qu'il n'y a qu'un film de 2010, et le vrai focus finalement se porte sur le film de 1935 à 1992.
D'accord.
Pourquoi du comment ? Parce que, en fait, des années 30, on va dire, jusqu'en 92, la Mongolie était un état socialiste. Il n'était pas occupé par les Russes, c'était l'un des rares états satellitaires qui avaient construit leur propre régime communiste en collaboration avec les Russes. Donc ils sont forcément inspirés par le modèle, ils ont eu plein de liens, dont celui du cinéma, parce que dans les années 30, la Russie trouvait que le cinéma était un outil de propagande absolument indispensable, et donc dès la création du régime communiste en Mongolie, eh bien les Russes ont tout fait pour que les Mongols commencent le cinéma. C'est-à-dire qu'ils ont montré, enfin, ils ont contribué à créer un studio de cinéma, ils leur ont donné des infrastructures, ils ont formé les réalisateurs en Russie, ils ont tout donné clé en main, finalement. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a vu un cinéma formidable avec un vrai savoir-faire. Les films sont magnifiques. Et avec des films qui se passent en rase campagne dans les steppes mongoles. Mais parce qu'ils avaient le bon matos pour, quoi, le matos russe. Donc c'est pour ça, en fait, on balait toutes ces années-là. Et j'ai vraiment veillé à représenter chaque décennie par un ou deux films. Donc on a un film des années 30, deux des années 50, deux dans les années 60. Et également les différents genres. Donc il y a du mélodrame, il y a de la comédie, il y a un film fantastique. Pour vraiment plaire à tout le goût, et j'ai évidemment veillé aussi à ce que les histoires racontent plus qu'un simple film, enfin que ce soit que les images aillent au-delà de la simple histoire. Il y a 2-3 films qui comptent énormément pour le Mongol, parce que c'était des succès incroyables, parce qu'il y avait une actrice extrêmement célèbre pour tout un tas de raisons, donc le peuple aime ces films. Et après il y a d'autres films, et bien ça reflète une propagande d'une époque. J'ai une comédie merveilleuse, mais qui en fait incitait aussi les Mongols à quitter leur yourte pour venir s'installer en ville dans des HLM flambant neufs qui est trouvé magnifique à l'époque.
D'accord. Alors si on revient à la base, bon, je pourrais rechercher par ailleurs, la Mongolie faisait-elle partie de l'URSS ou pas du tout ?
Non, c'est une idée faussement commune. Donc vraiment, on le met trop rapidement dans le bloc soviétique et des pays occupés. En plus, quand on regarde l'histoire, c'est toujours un peu tendu avec les Russes, mais non, je mets énormément d'importance. C'est un régime qui était créé par la Mongolie, totalement indépendant de l'Union soviétique, mais qui était un régime communiste, donc ils étaient extrêmement proches. Ce qu'on appelle encore une fois un état satellitaire de l'Union soviétique.
Are you ready?
Là, je suis tombé sur un film des années 80 complètement atypique et pourtant complètement traditionnel dans la tradition mongole, c'est L'Aigle Fier, le lutteur, que par ailleurs j'ai déjà vu une fois, voilà, au Festival de cinéma d'Asie. Tu peux m'en dire un mot ? Il est complètement au milieu de la période que vous avez choisie.
C'est ça. En fait, il y a plusieurs films mongols qu'on nous avions déjà passés. C'était en quelle année, Jean-Marc ? En 2000 ?
Ah non, on en a passé. Des films de mongols, on en passe depuis l'origine du festival.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on en passe depuis 95 et on en avait passé au moins une bonne quinzaine. Et donc, mais à chaque fois, on les distillait dans les sections thématiques. Et donc, là, on fait vraiment un focus et un focus de. Mais l'aigle fier, on l'a passé plusieurs fois. On l'a passé quand on a fait plein les yeux, parce que c'est un film magnifique en costume. On l'avait déjà passé une autre fois. Voilà.
Ok, deux fois.
On l'avait déjà passé deux fois, mais la dernière fois, ça remonte à 2009, donc tu vois, ça va faire 9 ans.
D'accord.
Voilà.
Donc dans la sélection, en fait, il y a une reprise de certains titres que nous avions déjà passés par le passé, aussi pour faire le lien entre le FICA, en fait, une espèce de continuité, et donc beaucoup de films autres qui sont totalement inédits et pour certains jamais montrés hors de la Mongolie. Et donc l'aigle fier nous tient énormément au cœur parce que les deux fois où nous l'avions passé avant, il en mettait plein aux yeux des spectateurs. C'est un film magnifique, extrêmement important, et qui justement s'attache à l'un des trois sports nationaux de la Mongolie, qui est la lutte. Mmh. En dehors de l'arc et le fait de chevaucher, donc des courses de chevaux. Donc c'est une histoire qui se passe à une époque un peu plus lointaine que les années 1980, une très belle histoire d'amour finalement, de lutteurs, et encore une fois dans des paysages absolument somptueux, et que nous présenterons en plus dans une nouvelle version rescannerisée. Donc en fait on fait une copie avec un ordinateur depuis la pellicule 35 mm d'origine, donc on ne peut pas coller plus proche de ce qu'a été le film à l'origine.
D'accord. Chaque genre, là on parlait d'un genre particulier, lié à l'identité mongole, avec des sports nationaux, mais par exemple aussi tu disais qu'il y avait des films qui n'ont été projetés qu'en Mongolie. Ouais. Alors là, ben, par hasard, je tombe sur Harmonica, 1963, première internationale.
Oui, tout à fait. Harmonica, c'est l'un des plus gros succès de la comédie mongole. En fait, c'était une des toutes premières comédies à avoir été faite. Et surtout, D'accord. C'est la première comédie socio-réaliste. Donc, c'est une comédie qui se passe à Ulaanbaatar, mm-hmm. la capitale. Et c'est exactement ce que j'ai évoqué plus tôt. Le film qui a servi de propagande, en fait, pour inciter les Mongols à abandonner leur yourte. Notamment en périphérie de la ville, parce qu'il y avait un vrai bidonville à exister, des paysans qui venaient avec leur yurte, qui viennent toujours au présent, qui le mettent en périphérie de la capitale. Mmh. Et en fait, le gouvernement de l'époque, dans un mouvement de modernisation, a construit des logements sociaux, des espèces de HLM mongols en fait.
D'accord.
Sauf que ça ne parlait pas du tout aux Mongols. On le voit sur la photo. Ça ne parlait pas du tout aux Mongols qui avaient l'habitude de leur yourte, d'espace, et qui là tout d'un coup étaient assemblés. Mmh. Et en plus dans ces HLM en fait c'était un appartement commun. Donc en fait il y avait deux familles à cohabiter dans un appartement avec une salle de bain commune, des toilettes communes et donc une pièce à part. Donc il y avait un espèce de sentiment de rejet. Donc là, en fait, on tournait ça justement en dérision avec l'histoire d'une femme qui habite dans la maison bricolée, on va dire, dans un petit quartier populaire de Ulaanbaatar par son père. Et donc, évidemment, elle ne voudra jamais abandonner cette maison parce que c'est l'héritage finalement qu'elle reprend, une tradition, quelque chose qui est extrêmement cher au cœur des Mongols. Et finalement, par un concours de circonstances et par une merveilleuse histoire d'amour entre sa fille et un ouvrier, eh bien, ils vont quand même, peut-être, faut voir le film, emménager dans cet HLM, comme D'accord. c'est un outil de propagande. Mais ça n'en reste pas moins une comédie absolument délicieuse. Donc, c'est la seule vraie comédie de la sélection, on va dire. Et donc, il y a plein de choses à dire par rapport à ce film.
Oui, bien sûr. Bon. voilà, les années 60, un enjeu politique avec donc gonfler une capitale et puis une architecture soviétique un peu
oui, ramassée. Bon, presque universelle, on a les mêmes barres en France.
Exactement. Un petit mot sur le film de 2010 qui clôt cette époque.
Oui.
On dira première française. Là, on change de genre.
Oui, totalement de genre parce que c'est un documentaire. J'aime toujours bien mettre un ou deux documentaires dans ces focus aussi parce que ça présente le vrai visage du pays. En revanche, là, c'est un documentaire magnifique qui transcende totalement le documentaire et son sujet premier. En très gros, en fait, le réalisateur qui est lui-même réalisateur de fiction, indépendant, d'auteur, suit un réalisateur fils de l'un des plus grands réalisateurs mongols de tout le temps, donc qui est héritier donc dans l'ombre de son père, on va dire, mais qui lui a connu la période d'avant 92, donc encore le modèle soviétique, donc où il travaillait pour l'État, parce qu'il n'y avait qu'un seul studio à avoir le droit à produire le film, où il pouvait tourner des films avec tout l'argent qu'on lui mettait à disposition, le budget était important, mais évidemment avec l'ombre de la censure, avec des thématiques qu'il ne pouvait pas traiter, etc. Donc c'est vrai. Et ensuite, quand le mur est tombé, oui, le mur est tombé, et que surtout l'Union soviétique s'est terminée aussi en Mongolie, quand le régime est tombé, eh bien, on pouvait tourner n'importe quel film, il n'y avait plus de censure, mais il n'y avait plus personne pour les financer, donc c'était de sa poche. Donc il y a énormément de réalisateurs d'avant 92 qui n'ont pas pu continuer leur métier. Et il y en a beaucoup qui sont dans un flou, on va dire artistique, comme ce réalisateur-là.
D'accord.
Et finalement, à travers l'histoire extrêmement personnelle, touchante, d'un artiste avant tout fauché, qui fait tout pour montrer ses films, qui fait 2000 km en une semaine pour tenter de les projeter devant 3 spectateurs, qui est totalement ruiné, etc. Et ben, on voit aussi l'histoire d'un pays, la Mongolie. Communiste, et est-ce que le fait de devenir en démocratie et devenir un système capitaliste est tellement le bonheur?
D'accord.
Et l'histoire du cinéma mongol en lui-même, donc il y a plein de couches, c'est extraordinaire, et en fait c'est un espèce de road movie, donc vraiment on le suit aller de village en village, donc on découvre finalement toute la Mongolie. C'est ça ce que j'ai vu montrer aussi. Ouais.
Toi personnellement, tu connais tous ces films, de les avoir vus?
Alors oui,
ça fait découvrir quelque chose.
Je prépare ce focus depuis un an maintenant, parce que c'est vraiment Bianba Soren Dava, qui m'a donné la motivation à le faire et l'appui nécessaire pour pouvoir le faire. Donc j'ai vu 263 films sur les 400 qui existent encore de la Mongolie.
D'accord.
Donc j'ai pu me faire une bonne image, et j'ai vu à travers toutes les décennies, etc. J'ai fait beaucoup de recherches pour savoir qui était vraiment le film valable, parce qu'il y avait quand même beaucoup de douchés. Et donc c'est pour ça que je pense que j'ai pu faire une programmation, enfin un vrai travail de programmateur, donc à savoir choisir des bons films et varier tout en gardant une même thématique et un représentatif. Après j'en découvre toujours parce que je continue à en voir, et ils en produisent 50 par an. C'est pas très bon ce qu'ils font maintenant. Et je découvre, parce que là on est au moment du sous-titrage, et beaucoup de films n'avaient pas de sous-titres lorsque je les ai regardés, et on me les a décrits ou traduits sommairement pour que je me fasse une idée, voir si ça vaut vraiment le coup évidemment. Mais là, le fait de caler le sous-titre sur le film pour que ce soit prêt à la diffusion au moment du festival, eh bien je découvre tout le dialogue, toute la finesse. Par exemple Harmonica, il y a plein de jeux de mots, il y a des scènes que je m'avais fait rire, mais maintenant je comprends le sens. Et j'ai 2-3 films qui sont des chefs-d'œuvre du cours, que je mets dans le top 10 de tous les films les plus beaux que j'ai jamais vus de ma vie.
Okay.
Et qui sont extrêmement poétiques, qui visuellement étaient déjà incontournables. Et maintenant, en découvrant le texte, ce que ça dit en plus, c'est absolument magnifique. C'est une trilogie qui est tout à la fin, une trilogie au bord de la mort, tournée entre 90 et 92. Voilà, L'arme de stèle, Ruine tiède et Traces d'inexistence. Et le réalisateur Jik Tsoren, qui sera avec nous, est un réalisateur vétéran, le seul historien du cinéma mongol. Il en a profité de la confusion de l'époque pour tourner coup sur coup ces 3 films, qui n'aurait jamais passé la censure par ailleurs. Ça s'intéresse à la purge politique des années 30 où ont été massacrés 40 000 Mongols sur les 400 qui vivaient à l'époque. Un dixième de la population était rayée de la carte de la mondialité du monde. Il s'intéresse aux viols et notamment les viols incestueux dans les campagnes parce que forcément dans la proximité ça n'a pas toujours été facile. Et c'est des films qui n'ont quasiment pas été visibles lorsqu'ils sont sortis parce que le régime s'est écroulé, parce que c'était des films tellement spéciaux, c'était des vrais films d'auteur que le public ne se retrouvait pas du tout et qu'ensuite on a voulu faire disparaître plus ou moins parce que c'est quand même des... Il raconte des choses que les Mongols même d'aujourd'hui n'aimeraient pas colporter dans le monde. Donc du coup, en fait, ils sont dans un état assez déplorable, les trois copies. Ils étaient encore disponibles, mais on a, avec l'appui de l'ambassade de France en Mongolie, eu de l'argent nécessaire pour pouvoir là aussi rescanner. Donc ils sont, pour la première fois depuis les années 90, dans une version diffusable sur grand écran. Et le réalisateur va les découvrir pour la première fois aussi. L'intégralité des trois films bout à bout dans un festival étranger. Donc voilà.
Alors, trois films qui sont tournés entre 1990 et 1991. Tu cites Jijit Suren de son prénom, Gombolja de son nom.
C'est ça.
Et tu dis qu'il sera présent, donc l'occasion pour moi, mais également comme tout un chacun, de le rencontrer, de pouvoir débattre avec lui.
Ah oui, 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 oui. Et encore une fois, ça c'est typiquement la plus-value de Vesoul et la beauté de Vesoul, parce que c'est pour moi l'un des plus grands réalisateurs sur Terre. Enfin, moi je le mets au même niveau qu'un Kurosawa Akira, mais en Mongolie. Okay. Rien que ça. C'est quelqu'un qui est le seul historien du cinéma mongol, qui a maintenant plus de 70 ans, donc il a vécu beaucoup de périodes, il a assemblé, il a vécu, c'est la mémoire. Et encore une fois, la Mongolie elle-même ne s'intéresse pas à son propre cinéma. En dehors de la Mongolie, personne ne connaît quelque chose. Mm-hmm. Donc le jour où il partira un immense puits de savoir qu'il faut saisir tant qu'il est encore là. Et encore une fois, c'est un homme extrêmement bon, humble, généreux, partageur. Donc il faut échanger, il faut prendre, il faut partager avec lui, voilà.
D'accord. Alors, on va parler un peu de la situation du pays. On va faire un dernier petit mot sur un film, pareil au hasard, moi qui me semble peut-être emblématique, pour parler du soutien de Mongol Kino, donc j'imagine une agence nationale de cinéma, et surtout de l'ambassade de France en Mongolie. Donc là, je vois en 1957 le réveil, et dans ce thème passé-présent, je vois l'histoire de quelqu'un qui se remémore son passé.
Oui, 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 tout à fait.
Justement, sur les soutiens de Mongol Kino et de l'ambassade de France.
Alors, de 1935 à la naissance du cinéma mongol jusqu'en 92, on va dire, 91-92, la chute du régime communiste, eh bien, il n'y avait qu'un studio d'État national qui produisait le film. Il faisait tout de A à Z. C'était un vrai studio à la hollywoodienne, mais des années 20 ou 30. Ils employaient jusqu'à 500 personnes. Ils étaient au centre-ville de l'Ambator. Les studios étaient grands comme deux terrains de foot. C'était incroyable. Et ils produisaient chaque année, en vitesse des croisières, 6 films par an. C'était des scénarii qui étaient écrits par des scénaristes validés par ce studio. Les réalisateurs finalement étaient un peu toujours le même. Ils ont été formés, on les connaissait, ils étaient dans le giron et ils avaient un salaire tout le mois finalement, pas seulement quand ils tournaient un film. Des employés quoi. Et donc finalement, quand ça s'est écroulé, le studio a fermé, n'a plus fait des productions de films, mais existe encore au jour d'aujourd'hui pour louer en fait le terrain, le studio, l'entrepôt, les accessoires. Ils ont plus de 400 voitures de tout temps pour servir d'accessoires aux films actuels. Enfin, c'est un grand délire. Mais ils ne produisent plus de films eux-mêmes. En revanche, les films, eux, sont propriété d'État et représentés par Mongol Kino. Donc c'est avec eux que j'ai traité pour avoir toutes les autorisations. D'accord. Pour sortir le film des archives du film, qui sont encore une entité différente, et puis parler parfois avec des ayants droit par ailleurs. C'est D'accord. un peu compliqué, mais voilà. Et tous ces films existent dans des archives des films, ce qui est très rare. Dans la plupart des pays asiatiques, les films ne sont que du commerce, fait pour rapporter. Donc une fois qu'ils ont été montrés, diffusés, on les jetait à la poubelle. On ne pensait pas du tout les conserver pour l'éternité. En gros, on tournait les ch'tis ou les tuches, qui devaient être un succès immédiat. On ne pensait pas que 50 ans après, les gens voudraient encore voir les tuches. Je ne sais pas si on fait bien, mais évidemment par rapport à l'exemple mongol. Eux, les Mongols, étaient avec les Russes. Les Russes ont dit il y a un besoin d'archiver tout ce que nous faisons, etc. Donc les Russes, là encore, ont construit des archives de films formidables. Et c'est pour ça qu'on a encore tout sur place. En revanche, souvent, c'est des copies 35 qui n'existent qu'en 35, plus ou moins dans un état dégradé et surtout très vieux. Donc il faut quand même en faire une copie. C'est là que j'ai eu besoin de l'aide de l'ambassade de France en Mongolie, qui m'a donné qui a joué les mécènes pour payer la scannerisation des films, donc la copie des films sur une copie digitale. Donc les 16 films ont été entièrement refaits pour Vesoul grâce à cet argent-là. Et surtout, ils seront répertoriés, ils repartent après aux archives. On ne les a pas achetés pour nous. On les donne, évidemment, on les lègue aux archives du film pour que ça puisse justement servir à d'autres festivals. C'est extrêmement important parce que en copie 35, c'est très difficile pour le faire voyager, etc. Alors que là, ils ont un support numérique pour aller à New York, être intéressé, en Suisse, un peu partout déjà. Quoi.
Précision, tu parles 35, c'est 35 mm concernant la pellicule film.
C'est ça.
Et puis, donc il y a un intérêt. L'ambassade de France en Mongolie, c'est l'État français. Donc ils ont joué ce rôle de mécène. Il y a un intérêt, donc, pour la France de se valoriser culturellement.
Tout
et de valoriser également les pays où ils ont des ambassades, en l'occurrence la Mongolie.
Tout à fait, tout à fait, de faire quelque chose, et puis pour la promotion de la culture, ce qui tient toujours très à cœur à la France. Et puis c'est aussi quelque chose, une autre une facette, un peu plus cachée, mais du FICA Vesoul, c'est pas seulement montrer des films, transmettre un savoir, la proximité de notre public, etc., qui nous tient à cœur, mais il y a une vraie mission par rapport au cinéma, cinéma asiatique indépendant dans le monde. C'est typiquement là depuis quelques années on tente tout, le tout pour le tout pour ressusciter des choses parfois moins connues qui risquent de se perdre, le faire perdurer et après de voyager dans le monde. Et donc finalement par le biais de ces copies numériques qu'on est en train de sous-titrer aussi parce qu'il n'y avait pas de sous-titres, donc ce qu'on appelle les time codes, donc on leur remet tout clé en main, il suffira juste de changer le français en anglais. Donc finalement, on va faire véhiculer le FICA Vesoul. On va faire véhiculer la France, l'image de la France, et un peu partout dans le monde, parce qu'encore une fois, je suis sûr que ces films vont être pris à différents points, et finalement, on va plus ou moins parler de nous. Je vais m'arranger pour que...
La preuve, c'est que on en a parlé à Charles Tesson, qui est le directeur de la Semaine de la Critique, et il a dit « Ah ben, je reviens à Vesoul ». Il était déjà venu à Vesoul il y a 2 ans, il était le président du jury de la critique, et cette année, quand on lui a dit qu'on faisait la rétrospective de cinéma mongol avec des films en première internationale, il m'a dit, mais il y en a même que vous avez que je ne connais pas, et c'est vraiment très très intéressant, et il sera là parmi nous. Cette chose aussi, c'était très importante, c'est que les Mongols ont été très très touchés, et notamment mon ami Bastian Merson a été décoré de un peu l'équivalent des arts et lettres en France pour cette rétrospective, et je crois qu'il y avait que 190 personnes au monde, 180 au monde qui ont eu cette décoration
depuis 1935.
Depuis 1935,
mais c'est important. Ça a beaucoup plus de valeur qu'une Légion d'honneur.
Il a une valeur personnelle.
Sur le cinéma mongol, je pense qu'on a pas mal d'informations. Merci de partager ta science, tes recherches. Et je voulais savoir, sur ce 24e festival, chacun, un seul film, un coup de cœur que vous avez, qui peut être dans ce cycle ou qui peut être... C'est très dur comme question. Un coup de cœur.
un coup de cœur des films qu'on a eus là.
Oui, si vous
prenez sur les 90.
Voilà. Un conseil, un coup de cœur. Oui. Je peux vous laisser le temps de réfléchir.
Moi, je vais en donner un, mais qui est vraiment atypique, mais qui est extrêmement osé. Enfin, voilà, c'est un coup de cœur, hein, mais c'est Ruine tiède. Ruine tiède, c'est un film de la section mongole, forcément. Encore une fois, c'est un film qui n'est allé nulle part dans le monde. Ce sera vraiment la première internationale à Vesoul. Il fait partie de la trilogie, mais qui sont extrêmement indépendants. Ils sont juste liés par la thématique de la mort. Et en fait, c'est un film fantastique post-apocalyptique, donc d'accord, pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir à Vesoul. Très brièvement, dans un futur proche, dans un pays qu'on ne cite pas mais qui ressemble foncièrement à la Mongolie, l'humanité a été rasée de la carte par une pluie de météorites qui s'est abattue sur la Terre, d'accord, comme du temps du dinosaure. N'en survécu qu'un père et ses deux filles qui traversent le pays désertique, rocailleux, qui ressemble forcément au désert des Gobi, en implorant le dieu de leur faire rencontrer d'autres humains survivants, et surtout d'autres hommes, parce que le père est obsédé à l'idée de perpétuer la lignée de la Mongolie ou de l'humanité, et il veut trouver un homme pour ses deux filles. Sauf qu'il ne tombe sur aucun homme, qu'il commence à se faire vieux, etc., et que la question se pose, comment pourrait-on perpétuer l'humanité ?
D'accord.
Est-ce qu'on ira jusqu'à l'inceste ou pas, etc. D'accord. Et en fait, c'est un film qui a été écrit par un poète extrêmement célèbre mongol. Okay. Donc il y a une vraie notion philosophique, non pas seulement par rapport à l'humanité, mais par rapport au rôle de la femme, oui, finalement, qu'elle est la génétrice de l'humanité, c'est elle qui donne la vie, la naissance, etc. Et il y a des réflexions absolument incroyables, et encore une fois, c'est un poème autant visuel que textuel. Il y a des scènes... voilà, c'est un film que maintenant j'ai vu une trentaine de fois, je pense, avec le sous-titrage, etc. Et je découvre de nouvelles facettes. Il me fait réfléchir sur des choses à chaque fois. Il n'est pas facile. Il y a des scènes qui peuvent un peu choquer, mais il remue dans le bon sens du terme. Et encore une fois, elle vous reste dans la tête. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement facile.
Are you ready?
Radio Mongol RMI.
C'est cohérent puisque tu classais ce cinéaste qui va produire cette trilogie, enfin revisionner ou à visionner parmi tes cinéastes préférés.
Ouais.
Et puis moi là, je pense rapidement au cinéma de Chris Marker.
Oui.
La cité des...
Oui.
Les réalisateurs, ça pourrait peut-être.
Ouais.
Pour faire des rapprochements. Ouais. Ouais. Post-apocalyptique.
Voilà. Ouais. 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 J'avais pas fait le rapprochement. Oui. Oui. Mais pourquoi pas. Ouais.
Et quant à Jean-Marc,
un seul coup de cœur.
Oui. Je sais que je te demande.
Alors, quand une femme monte l'escalier de Naruse Mikio.
Ouais.
Naruse Mikio, c'est un des grands réalisateurs japonais
avec Ozu, Kurosawa, et puis naturellement Kenji Mizoguchi, et vraiment c'est des films comme ça, c'est des pures merveilles, quoi.
D'accord.
Mais sinon, si on permet un coup de cœur par section, pour moi, dans la fiction, la compétition fiction documentaire, ça serait The Taste of Rice Flour de Song Feng. Donc, dans Femme d'Asie, c'est donc quand une femme monte l'escalier, dans Parole de femme. Dans les films de Malas, ça serait Le rêve de la ville, où justement Malas parle de son enfance et fait des allusions à la présence française en Syrie entre 1919 et 1947. Un film magnifique sur l'enfance et la mémoire. Et puis, dans les films de Wong Zhao-Shuai, j'aime beaucoup Chongqing Blues. C'est la difficulté pour un père de faire le deuil de son fils, puisque ce n'est pas dans l'ordre des choses. Et puis naturellement, ça va n'étonnera personne, ça serait Les cinq couleurs de l'arc-en-ciel dans la section Mongolie, mais j'aime beaucoup aussi Le réveil et aussi L'ombre. C'est des films très 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 beaux. Et puis alors dans les films d'animation, Dans un recoin de ce monde, alors ça c'est un film japonais d'animation, mais alors c'est une pure merveille plastique. Et ça compte l'histoire d'une petite fille dans les années 1935 qui voit la montée du militarisme japonais, la marche à la guerre. Après ça, la catastrophe qu'est la Seconde Guerre mondiale, l'occupation du Japon par les Américains. Et après ça, elle transcende tout ça par l'art, parce qu'en fait, elle est peintre, elle devient peintre, elle a toujours été attirée par la peinture et elle traduit toutes les émotions de ce qu'elle a vécu par la peinture et elle habite à côté d'Hiroshima. C'est vraiment un très très beau film.
Documentaire.
Un très beau film manga d'animation.
D'accord.
Et c'est vraiment, et en plus on peut le voir en famille et d'ailleurs on l'a mis le dimanche après-midi à 13h45 pour qu'on puisse le voir en famille comme on peut voir un Walt Disney. Mais c'est vraiment, il y a plusieurs niveaux de lecture, aussi bien pour l'enfant, pour l'ado, pour l'adulte, etc.
D'accord.
Les documentaires?
Et dans les documentaires, ah ben j'ai un que j'aime beaucoup, c'est le film chinois que l'on présente en première mondiale et qui parle des femmes flics en Chine. Et donc, j'aime beaucoup l'originalité de ce film, I Am Shang Yuan de Yang Yang. Et justement, il y a une histoire personnelle, c'est que son producteur est un réalisateur chinois qui est déjà venu à Vesoul. On a présenté au moins 5 à 6 de ses films. C'est un des meilleurs documentaristes chinois. Et il a fait une école. Et avec sa maison de production, il cherche à promouvoir les jeunes talents chinois. Quasiment tout ce qu'il fait, c'est bon, quoi. C'est ça qui est extraordinaire.
D'accord.
Merci. Peut-être un focus. Et moi aussi, alors. Parole de femme, Marlina. C'est pas du tout objectif. C'est un film fait par une copine indonésienne qui est allée à Semaine de la Crête. Non, pas du tout. Semaine de la Crête. La quinzaine.
La quinzaine.
La quinzaine de Festival des Cannes, qui est encore inédit en France, qu'on a pu reprendre grâce à son distributeur mondial Asian Shadows, qui a bien voulu nous le mettre en avant-première quasiment en France. Marlina la tueuse en 4 actes. En fait, c'est un western indonésien contemporain, magnifique autour de des paroles de femmes. La compétition fiction, j'aime tout, donc je ne choisirai pas de chouchou. Dans la section documentaire, j'aime beaucoup The Wait. C'était le premier documentaire qu'on a sélectionné d'ailleurs, qui est magnifique, qui est extrêmement actuel sur les migrations clandestines depuis, dans ce cas-là, c'est l'Afghanistan, avec l'exemple d'une adolescente afghane. Enfin bon, bref, je m'en remets toujours pas de ce documentaire incroyable. Mais la section documentaire dans son ensemble est vraiment très riche. Hein. C'est pas pour nous lancer des fleurs, mais Qu'est-ce qu'il y a des beaux documentaires, je pourrais tous le...
On en a vu 323, pour en sélectionner 8, donc on vous montre la crème de la crème. Quant au film de la compétition, on en a visionné 793, et on vous en a sélectionné 9, donc c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur à l'heure actuelle.
Wang Xiaoshuai, un choix un peu curieux, mais c'est The Days, que je ne connaissais pas. Il y avait une qui était invisible depuis les années 90, qui est censurée, bannie en Chine, que là encore on a contribué, aidé à se refaire, à une rescanérisation depuis l'original. On a énormément de films qui n'étaient plus visibles qu'on remet en lumière. Et il y avait une version pirate italienne qui circulait, etc., qui était tout en noir et blanc. Et en sous-titrant ce film, en fait, je me suis rendu compte que il y avait des passages en couleur. Donc en plus, ça va être l'œuvre originale telle quelle, et qui est pour moi l'un des plus beaux films faits sur la difficulté d'une relation de couple. Surtout en étant artiste. Forcément, ça peut me parler, mais il est magnifique. C'est pour moi, c'est de la nouvelle vague transcendée, noir et blanc. Bon, bref.
Okay.
Voilà, The Days. Moins visible, moins connu, mais justement. Et Malas Passion, l'un des plus beaux films sur une femme tournée de tout temps. Are you ready?